Chapitre 18. Ce fut comme une blessure dont je mis longtemps à me remettre. Le jour de la rentrée scolaire, quand je revins du lycée, je ne trouvais plus Biguet à la maison. Pour m'éviter d'entrer dans une demeure vide, mon père était venu me chercher à l'arrêt du bus. Il monta avec moi jusqu'à l'appartement en me questionnant sur ma première journée de sixième. Il me donna mon goûter et me dit de faire mes devoirs. S'il y avait un problème, il était en bas dans son bureau. Je pouvais téléphoner ou, si c'était très urgent, descendre le rejoindre. Puis il s'en alla. Je compris alors que, jusqu'au retour de ma mère, vers 7 heures, j'allais désormais passer toutes mes soirées seule, et je ne verrais presque plus jamais Biguet qui arriverait et repartirait pendant que je serais au lycée. Même le samedi matin, j'avais des cours. J'étais très dépaysée dans ce lycée. Et comme le craignait mon père, mes résultats scolaires furent bien inférieurs à ce qu'ils avaient été à l'école primaire. Je me faisais très difficilement à la multitude des professeurs et au changement des matières toutes les heures. J'avais du mal à organiser et mon travail et mon emploi du temps. Comme mes parents étaient absents, je passais beaucoup d'heures à rêvasser ou à lire au lieu d'étudier comme j'aurais dû. Et puis, il faut dire que la tentation était grande de suivre mes camarades à la plage au lieu de rentrer dans une maison vide. J'aimais nager. Comme mon père ne s'y opposa pas, je pris donc l'habitude, avec 3 amis, d'aller me baigner chaque jour après le lycée, au détriment des leçons et des devoirs que je bâclais allègrement. Ces 3 camarades et moi étions passionnés par l'écriture. Nous avions entrepris chacune, de notre côté, d'écrire des contes. Nous les faisions mutuellement lire chaque jour dans le bus scolaire. Pour ma part, je m'inspirais des légendes africaines que m'avait racontées Biguet. Je mis en particulier par écrit l'histoire de Samori, qui horrifia mes amis dont les contes étaient emplis de princesses de légende et d'amour moyenâgeuse. Je me mis aussi à écrire des poèmes. J'avais eu la curiosité de décortiquer un sonnet que je devais apprendre pour comprendre comment il était composé. Et, sur ce modèle, je me mis à tenter d'en écrire un, moi aussi. Mon père, quand je lui montrai ma première œuvre, ne voulut pas croire que c'était là une création personnelle. Puis, quand il vit que j'en écrivais d'autres, il fut sûr que je ne lui avais pas menti. J'en composais plusieurs sur Biguet, mais ceux-là, je ne les montrais à personne. Je voulais les lui lire à elle seule. C'était ma façon de lui dire combien je l'aimais et combien elle me manquait. Mais je ne la vis plus jamais seule à seule et je ne trouvais pas l'occasion de lui réciter les œuvres que je lui avais dédiées. Plusieurs soirs, à table, mes parents parlèrent de leur projet de ramener Biguet avec nous en France. Je ne me sentis plus de joie et j'applaudis à 2 mains. Mais ils me firent promettre de ne rien lui en dire. C'était à maman et à elle seule d'amener Biguet à accepter de partir avec nous. D'après mon père, elle disposait de tout le temps nécessaire. Nous ne quitterions Dakar qu'au début du mois de juillet prochain. J'imaginais le plaisir que j'aurais à faire découvrir Paris à Biguet. Je voulais qu'elle partage ma chambre. Et je harcelais aussi mon père parce qu'il ne lui apprenait pas à lire assez rapidement à mon gré. Mais je découvris bientôt qu'avec l'arrivée de ma mère et le retour de Biguet chez la tante, les cours d'alphabétisation avaient brusquement pris fin.